France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec une femme exceptionnelle ce soir. Une femme qui fait partie de notre patrimoine national. Lynn Renaud, dont les chansons ont bercé plusieurs générations, nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Elle qui est un petit peu, permettez-moi de le dire, notre grand-mère à tous. Celle qu'on appelle en cas de coup dur quand le pays perd l'un des siens, elle qui a tout vu, tout connu. La guerre, la libération, les Trente Glorieuses, ceux qui pleurent en coulisses, ceux qui rient, un verre de champagne à la main. Elle dont l'arrière-grand-mère disait « Ne vous en faites pas pour la petite Jacqueline, son nom à l'état civil, elle serait capable d'aller parler au président de la République ». C'était bien vu. Avec elle, les présidents se font tout petits. Il faut dire qu'elle est née sous Gaston Doumergue, sous la Troisième République, et que son album Souvenir en impose avec des stars à toutes les pages. Aujourd'hui, Lynn Renaud publie aux éditions de La Martinière un livre de photos sur ses années Las Vegas, car les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais elle a triomphé aux États-Unis dans les années 60. On en parlera avec elle. On parlera aussi de ses débuts dans le Nord, de sa carrière parisienne, de ses combats, toujours actuels, contre le sida, mais aussi pour le droit de mourir dans la dignité. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et les bonnes ondes de Sandrine Houdin ce soir, les petites cantines où quand les habitants décident de faire à manger pour leurs voisins de quartier. Ça se passe à Lyon pour l'instant, mais l'initiative gagne du terrain ailleurs en France. À 19h20, au téléphone sonne, tout à fait autre chose. À l'occasion de la semaine de la mobilité, on s'interrogera sur le partage de la voie publique. Auto, moto, vélo, bus, roller, trottinette, mais aussi maintenant, mono, roue, gyropode, comment cohabiter sur la chaussée et les trottoirs? Comment pacifier la voie publique et faciliter les déplacements? On en parle au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Lynn Renaud.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Sur France Inter. C'est un très beau cadeau hein, que vous nous faites d'être là.
Mais tout ce que je viens d'entendre, c'est un très beau cadeau aussi.
Très beau cadeau à l'occasion de la sortie de votre livre « Mes années Las Vegas », un superbe livre que vous publiez aux éditions de La Martinière avec David Lelello, c'est bien ça? Sur la couverture, on vous voit rayonnante en meneuse de revue. Dans ce livre, plein de photos inédites, notamment de vous aux États-Unis. Alors pourquoi ce livre maintenant? C'est des photos que vous avez retrouvées quand vous avez vendu votre maison de Las Vegas?
Oui, c'est ça. Il y a à peu près 8 ans, moi, j'avais tourné la page. Vraiment, j'allais à Las Vegas retrouver des amis. Mais pour moi, c'était plus dans mon objectif, quoi. Alors j'ai vendu ce que j'avais là-bas. J'avais une maison. Et puis j'ai rapatrié toutes mes archives. On les a laissées comme ça. Moi, je partais en tournée. On s'est occupé de ces archives. Et là, récemment, on retourne beaucoup sur le passé en ce moment. Alors, j'ai retrouvé ces archives. Une boîte qui était toute sale, derrière plein de choses. Il était écrit « Loulou » dessus. Donc, on a ouvert. Et là, on a trouvé plein d'hectachromes. Évidemment, ça a attisé notre curiosité.
Il y a plein de souvenirs qui nous ont remonté à la mémoire.
Et alors là, je n'en suis pas revenu que Loulou prenait tant de photos. C'est drôle, je ne l'ai pas vu. Pourtant, il était toujours avec moi. Il avait cet appareil qui s'appelait un Hasselblad. Il en était fou. Il faisait des photos. Et donc, j'ai trouvé que mon loulou me faisait des photos quand j'étais sur scène. Il était dans la salle. On a retrouvé des photos de revue, des photos dans le désert. Sur le livre, il y a peut-être 80%, ce sont des photos de mon loulou, voilà.
Et puis, il y a des photos de vous dans votre maison, de Las Vegas, qui était surnommée l'ambassade de France, rien que ça.
Mais c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'amis français qui venaient me voir, mais c'était très touchant parce que je recevais des coups de fil. Par exemple, un jour, je reçois un coup de fil. Ils étaient allés au Dunes Hotel où je chantais et on leur avait donné mes coordonnées parce qu'ils étaient français. Et là, donc, je les ai au bout du fil. C'était tous des ouvriers de chez Ducret et Thompson. Il y avait un bus ou deux bus avec à peu près 60 personnes en plein mois d'août. Et ils venaient ici. On est en Californie. Si on peut vous voir à Vegas, si vous nous recevez, on vient jusqu'à Vegas. Alors j'ai dit, vous pouvez venir à Vegas, mais vous n'allez pas trouver de chambre facilement à Vegas. Ils sont venus quand même. Je les ai fait loger à l'université. C'était 80 personnes de chez Ducret et Thompson, ta mère, c'est ça. Puis des étudiants qui me téléphonaient. On fait de l'autostop. On viendrait bien à Vegas, on peut vous voir. Je les recevais et c'est comme ça que c'était un peu l'ambassade de France.
En tout cas, c'était piscine, champagne. On se dit que c'était la belle vie quand même.
Ah, mais hein, c'était
un peu ça quand même.
Moi, j'attendais pas d'aller à Vegas pour prendre un peu de champagne. Et aller dans une piscine quand même. Non.
En tout cas, il y avait le travail aussi, hein, puisque les États-Unis quand même, j'imagine, pour un artiste, c'est une montagne, parce que c'est quand même le professionnalisme.
Vous savez, il faut aller sur scène
là-bas
tous les soirs, deux fois par soir à Vegas, trois fois le samedi. Bon, quand vous buvez le champagne, c'est quand même une coupe maximum deux, mais... Il faut même les gens qui ont la réputation d'être de bons vivants, comme étaient Dean Martin et Frank Sinatra, jamais avant le spectacle, jamais.
En tout cas, il y a des tas de photos justement avec ces artistes, Frank Sinatra et Dean Martin, dont vous venez de parler à l'instant. Alors, vous avez chanté avec lui, Lynn Renault, et histoire de se mettre quand même dans l'ambiance, on va vous écouter ensemble. Relaxez-vous.
Ah, ça me plaît ça.
Ah ben oui.
When you're too tense, it's common sense, or relaxez-vous. The more you earn, the less you learn to relaxez-vous.
Oui, French, you'll find are more inclined to relaxez-vous.
Relax, 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 relaxez-vous.
Dr. Bill said, hold for pills to relax you. You're in your prime, so now's the time to relax you.
The girls pursue those fellas who can relax you.
Relax, 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 relax you.
You're as tight as a drum.
You're as gay as a tune.
Magnifique, Lynn Renault, cette époque-là.
Ah, c'était sensationnel. Et inattendu, encore tout à fait inattendu, je chantais ça. Ça date quand même de 1954. Alors, vous avez cet orchestre, ce grand, le Big Band, c'est un rêve de chanter avec le Big Band. Et puis, c'est tout à fait par hasard, je chantais au Coconut Grove et un jour, nous avons reçu un appel d'un monsieur Gillette, qui était le directeur artistique de chez Capitol, mais demandant que si je pouvais faire un duo avec Dean Martin. On a cru que c'était une blague. Alors Loulou dit « Yes, for sure, we can do... »
Il fallait toujours aller de l'avant. Moi, j'ai retenu quelque chose dans... Je pense que c'est dans ce livre-là que c'est signalé, quand vous avez commencé la revue à Las Vegas, qui est quand même une montagne, même si vous aviez déjà fait des revues, meneuse de revue ici à Paris. Ce qu'a dit Cary Grant à la presse, après la première, il a dit « Quand Lynn est sur scène, au bout de deux minutes, tous les spectateurs ont envie de se serrer la main et de se dire « Comment ça va, mon vieux ?» Okay. Ça, c'est votre secret, Lynn Renault, de rendre les gens heureux comme ça?
Ça s'appelle peut-être le charisme, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. C'est vrai, j'ai un contact, j'aime bien parler aux gens depuis la scène. Donc, c'est sûrement ce qu'il voulait dire.
Aujourd'hui, il y a une rue à votre nom, à Las Vegas, Lynn Renault, Lynn Renault Road. Vous êtes allé l'inaugurer l'an dernier, c'est ça?
Oui, oui. Et c'est drôle, je ne peux pas l'oublier parce qu'il y a tellement de Français qui passent à Vegas et qui m'envoient les mails avec leurs photos sous le nom de la rue.
Et ben voilà. On reparlera évidemment de ces années américaines, Lynn Renault, tout au courant de cette émission, mais on va, comme chaque vendredi, parler de l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Marie-Annick Rimbaud cette semaine. Un ministre de l'Intérieur qui annonce son départ, Emmanuel Macron en conseiller Pôle emploi et une audition devant le Sénat.
Monsieur Benalla, j'en viens maintenant à ce moment solennel. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ».
Je le jure.
et dire qu'il y a quelques jours encore, il refusait de venir s'expliquer devant le Sénat, soutenu en cela par toute une partie de la majorité. Finalement, Alexandre Benalla s'est exécuté et il s'est même excusé d'avoir traité le président de la commission d'enquête de petit marquis.
J'ai été bien élevé. Et j'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, monsieur le président.
Philippe Bas a bu du petit lait, mais en homme qui connaît les bonnes manières, il n'en a rien montré. Sinon, cette semaine, à l'occasion des Journées du patrimoine, Emmanuel Macron a croisé la route d'un jeune chômeur.
Vous êtes inscrit à Pôle emploi ?
Ouais. Mais vous voulez travailler dans quel secteur ?
Horticole, et j'ai envoyé partout dans les mairies, plein de fois.
Horticulteur ? Qu'à cela ne tienne, on peut bien troquer son râteau pour un plateau.
Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je les en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Traverser la rue, certains l'ont fait.
Est-ce que vous recrutez en ce moment ?
Non, on a tout ce qu'il nous faut et j'ai une pile de CV en attente.
Mardi, le gros dossier du jour, c'était la présentation du plan santé par le président.
Le numerus clausus sera donc supprimé, mais...
Mais patatras, Gérard Collomb vole la vedette à Emmanuel Macron en annonçant qu'il sera candidat à la mairie de Lyon en 2020 et qu'il quittera le gouvernement dans quelques mois. Le départ de ce fidèle d'entre les fidèles fait dire au député LR Éric Ciotti que la maison prend l'eau de toutes parts.
C'est un peu la fuite du Titanic aujourd'hui qui semble, dans un mouvement de panique, guider cette majorité En Marche qui est complètement déboussolée.
Gérard Collomb bientôt de retour dans la cité des Gaules dont il n'était jamais vraiment parti. Les Lyonnais ne sont pas surpris.
Il est meilleur maire que ministre de l'Intérieur.
Le ministre de l'Intérieur sur le départ. Il faut dire qu'il y a quelques jours, il s'était permis un début de commencement d'autocritique et ça, en Macronie, ça ne se fait pas.
Peut-être les uns et les autres, nous avons manqué d'humilité.
Apprendre de ses erreurs, c'est précisément ce qu'a fait Kevin Mayer, qui avait été éliminé des championnats d'Europe d'athlétisme au mois d'août à Berlin. Le week-end dernier à Talence, il a battu le record du monde du décathlon.
Allez Kevin, on est aux alentours des 4,40, il va le réaliser, il va le réaliser, 4,40, oui, le record du monde, c'est sensationnel ce qui vient d'arriver.
9126 points, quoi, c'est un truc de fou.
Du théâtre, à présent, avec une professeure nommée Brigitte Macron. Elle vient de faire ses débuts à la télé.
Mon truc, c'est le théâtre.
Parmi ses élèves, on le sait, le jeune Emmanuel.
Le numerus clausus.
Bien prononcé.
On le tient, c'est bien.
Mais attention à bien se tenir.
Mais...
On rentre le ventre. C'était un bonheur de vous rencontrer. Merci pour ce moment.
Sacrée Brigitte. On termine avec quelqu'un pour qui le théâtre n'avait aucun secret. Le comédien Jean Piat en est allé. Il avait joué plus de 400 fois le rôle de Cyrano de Bergerac à la Comédie Française.
C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je ? C'est un cap, c'est une péninsule.
Et encore merci à Marie-Annick Rimbaud pour cette mise en onde. Lynn Renaud, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a retenu votre attention dans ce petit résumé.
Ben, je voudrais dire au revoir à Jean Piat. C'est un ch'ti.
Comme vous.
Voilà. Et il avait beaucoup de talent et je ne l'ai pas vu assez souvent. On ne s'est pas vu assez souvent. On regrette toujours après.
Alors, je ne vais pas vous demander sinon de parler politique, Lynn, parce que je sais que vous n'aimez pas parler politique, malgré votre proximité avec plusieurs présidents. Comme je disais, votre arrière-grand-mère, quand même, avait vu juste.
J'ai commencé avec Vincent Auriol.
Et René Coty. Hein, c'est pas mal.
Le premier était Vincent Auriol. Je suis allée avec les mineurs du Nord. Et j'ai chanté Le Petit Quinquin avec M. Coty aussi, oui. Et Madame Coty.
Ah, on va voir s'il y a des enregistrements de ça, je ne sais pas. En tout cas, Lynn Renaud, pour ce qui est des... Vous l'avez dit, c'est peut-être pas dans ce livre, dans un autre, que vous ne vous êtes pas beaucoup occupé des affaires du pays jusque dans les années 80. En fait, c'est la mobilisation pour le sida qui vous a amené à vous engager pour une cause.
Oui, c'est le sida qui s'est trouvé, si vous voulez, sur mon chemin.
Au retour des États-Unis, justement.
Oui, pendant que j'étais là-bas aux États-Unis en 84... Et que Elisabeth était une amie.
Elisabeth Taylor.
Oui, Elisabeth Taylor, pardon, était une amie. Et qu'elle m'a invitée à ce premier gala qu'elle organisait pour Aide. Et c'est là où j'ai découvert que tout ce, cette panique, les enfants hémophiles rejetés des écoles, les artistes ne se serrant plus la main, enfin, etc., etc. Et c'était, ça m'a impressionné de voir cette communauté hollywoodienne suivre Elisabeth. Et c'est eux qui ont dit, si les artistes ne s'en mêlent pas, les politiciens ne le feront pas. D'ailleurs, jamais Reagan n'a prononcé le mot de aide, jamais. Et ça semblait devenir pareil ici. Alors bon, ça a été mis sur mon chemin, mais pour faire un gala. Si j'ai fait ce gala, c'est parce que j'ai été interviewée dans l'émission me disant, vous avez vu ce qu'a fait Elisabeth Taylor, qu'en pensez-vous? Et j'ai dit, les artistes français vont devoir faire la même chose.
Et vous les avez mobilisés, c'est comme ça qu'il y a eu les artistes contre le sida. Puis
mais je ne pensais pas y être encore 35 ans après. Et peut pas lâcher les bras.
Et vous êtes toujours vice-présidente du SIDAction. Vous êtes même allée parler du SIDA devant des chefs d'État africains à l'ONU l'an dernier.
Hein. Et Françoise Barressine aussi a remplacé
Notre Nobel qu'on recevra bientôt, hein, je le précise.
Elle est extraordinaire.
Vous êtes engagée aussi, Lynn Renaud, auprès de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, je crois. Là, il y a eu des états généraux de la bioéthique. C'est un sujet qui a, paraît-il, beaucoup intéressé les Français lors des débats. Vous pensez que la loi devrait évoluer sur ce point?
Je pense. C'est pour ça que je fais partie de l'association. Écoutez, moi, j'ai vu ma maman à la fin de sa vie. Pendant 2 ans. Elle a tellement souffert pendant 2 ans, tellement. Et je lui dis, maman, tu es formidable. Et elle me disait, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Elle souhaitait la mort. Elle souhaitait, même quand on a des personnes si chères, on ne peut pas être plus proche qu'avec sa maman ou son mamie. C'est terrible de la voir partir. Mais je priais pour qu'elle parte. Alors bon, en ce qui me concerne, moi, je sais ce que je vais faire. Je crois qu'il faut mourir dans la dignité.
Donc, la loi doit évoluer. On va écouter maintenant Lynn Renaud, peut-être la chanson qui vous a rendu célèbre. Vous nous direz. C'est Ma cabane au Canada.
Oui.
Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend engourdie sous la neige. Elle attend le retour du printemps. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi. La vie libre qui me plaît, la forêt. À quoi bon chercher ailleurs? Toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celui qui voudra me suivre. Viens avec moi si tu veux vivre au cher pays où je suis née. Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi. Nous rallumerons le feu tous les deux. Seul, un vieil indien entrera dans ma cabane au Canada. Je te dirai le nom des fleurs sauvages, je t'apprendrai le chant de la forêt. Ma cabane au Canada, tant que tu y resteras, ce sera le mon chéri. À quoi bon chercher ailleurs? Je sais bien que le bonheur
Une semaine en France.
Ma cabane au Canada, Lynn Renaud. On la connaît tous, cette chanson.
Elle passe de génération en génération.
Quoi, vous aviez 18 ans, 20 ans ?
Quand j'ai fait le disque, j'avais 18 ans. Et le prix du disque, 20 ans.
Le prix de l'Académie Charles Cros, oui.
Mais
ça, c'était
on a la voix d'une enfant encore là. C'est une voix de gamine, quoi, d'adolescente.
Alors, si ça vous amuse de vous réentendre à cette époque-là, on vous fera entendre aussi un autre extrait tout à l'heure qui est absolument charmant. Mais juste un petit mot sur cette chanson. Au départ, c'était un poème de Mireille Brosset, oui. C'est ça, qui traînait chez vous, on peut le dire. Puis un jour, vous avez entrepris d'aller ranger les affaires de Loulou Gasté contre son gré, et vous êtes tombé dessus, c'est ça.
J'ai surtout fait tomber tout ce qu'il y avait sur son piano, tout à fait par hasard. J'ai voulu tout ramasser, et en même temps, je lisais les feuilles de papier avec des poèmes. Je lis celui-là, je l'ai mis sur son piano. Quand il est rentré, je me suis fait attraper. Puis après, il a regardé, c'est quoi ? J'ai dit, magnifique poème. 10 minutes après, la chanson entre sa guitare et le piano, la chanson était faite. Il appelle Mireille Brosset. Il lui dit, Mireille, j'ai fini votre chanson. Mireille lui dit, laquelle, Loulou ? Elle lui dit, la cabane au Canada. Elle dit, vous l'avez depuis 7 ans.
Oui, mais après, composition express, hein, voilà, si c'est 10 minutes. Hein.
J'ai bien fait de faire le ménage.
Alors, cette chanson a connu un succès phénoménal. Du coup, vous avez été connu absolument partout. Mais ce qui m'a intéressé, c'est, vous avez raconté ça dans un de vos livres, Aimer Secrets aussi, c'est que tout le monde vous connaissait votre voix, connaissait la chanson, mais pas votre visage, parce qu'il n'y avait pas la télé.
Il n'y avait pas encore la télé.
Et pour vous faire connaître, vous avez fait quoi ? Vous avez fait le Tour de France.
C'est encore une idée de Loulou.
1949, le Tour de France. Oui. Debout dans une voiture.
Oui,
c'est du sport.
Une voiture décapotable, je ne sais pas quelle marque, Stibuka, je crois, j'en sais rien. Et Loulou avait fait transformé avec des rondins de bois pour que ça faisait une cabane, quoi. Alors bon, mais c'était merveilleux parce que c'est la première fois que je rencontrais le public et que le public me rencontrait.
Parce que le soir, en plus, il y avait un concert après toute cette
tournée. On arrivait dans la ville, numéro 1, on allait visiter les marchands de disques, les disquaires. Et puis, bon, quand il y en avait 3 par ville, on faisait un quart d'heure, 20 minutes chez chacun. Après, on partait remettre le maillot jaune, s'il y avait un changement de maillot. Après, on faisait le concert sur le toit des camionnettes réunies. Les camionnettes réunies faisaient une scène. Et là, on chantait devant 20 000, 30 000 personnes. À Pau, il y avait 30 000 personnes.
1949. À propos de ses débuts, Lynn Renaud, on va écouter, j'espère que c'est possible, tout de suite, un petit extrait qu'on a trouvé. C'était à l'occasion du bal des Catherinettes en 1946.
46 ?
Oui, écoutez bien.
Je vais vous présenter une camarade qui a beaucoup de talent, qui est très jeune, que vous connaissez bien et qui s'appelle Lynn Renaud. Lynn Renaud sera accompagnée par Loulou Gasté.
Au petit bonheur, la chance. Ah. Au petit bonheur, la chance, je laisserai voguer mon cœur. Accordez-lui toute votre indulgence, gardez pour lui ces mots qui vous effleurent, ces mots pleins de douceur qui embaument la vie. Au petit bonheur, la chance, d'une aventure sans lendemain, ou d'un amour, oui d'un amour immense. Au petit bonheur, la chance, ma chance et mon destin.
Mon Dieu.
Eh oui, Lynn Renaud, c'est vous.
Mais 46.
Mais
attendez, là, c'est incroyable quand même. Vous attendez comme cette jeune femme m'a présenté. Donc ça veut dire que en 46, j'étais connue.
Et ben voilà, vous voyez, c'était déjà connu. Mais alors, justement, tiens, on va en parler.
Non, mais j'en reviens pas là.
On va en parler de votre notoriété parce que vous êtes donc né près d'Armentières, dans le Nord.
Au Pont-de-Nièvre.
Voilà. Et vous avez commencé à chanter. Vous étiez toute petite, y compris à 3 ans. Il paraît que vous montiez déjà sur les tables. Vous chantiez pour.
À 3 ans, peut-être pas, mais bien à 5 ans, oui.
Alors, et des radios crochets, il y en a un que vous avez gagné à 6 ans, hein, oui. Ça vous l'avez raconté, puisque l'école c'était pas trop votre truc à vous. Finalement, c'est une copine qui vous a inscrite, sans vous le dire, au concours du conservatoire de Lille.
C'est ça.
Un beau jour, vous avez reçu la convocation, vous êtes allé au conservatoire de Lille. Bon, le conservatoire c'était pas forcément très fait pour vous lors de ce concours, on vous l'a fait comprendre, mais à la fin, dans le jury, il y avait
le directeur de Radio Lille. Et lui, il est venu nous voir en coulisses. Il a dit à ma maman, bon, pour le conservatoire, c'est pas tout à fait ce que je cherche. Mais par contre, je suis le directeur de Radio Lille et nous cherchons une chanteuse pour entrer dans l'orchestre de jazz de Michel Varlope, qui était un grand violoniste très célèbre, mais qui était dans le Nord maintenant. Et donc voilà, le destin a voulu que... C'est un piège de ma mère, le conservatoire. Parce que ma maman, quand on a montré...
Elle vous a dit, si ça marche pas, tu ne parles plus de cette histoire.
Voilà. Hein, si ça marche pas, tu oublies de chanter. C'est fini, jure-le sur la tête de grand-mère. J'ai juré sur la tête de grand-mère que je ne parlerai plus jamais de chansons. Et le destin en a voulu autrement.
Alors voilà, il y a eu Radio Lille. Ensuite, il y a eu aussi la Radio Nationale. Parce que vous avez, partout où vous êtes passé, vous avez tout gagné. Je crois qu'on peut
le dire. Il fallait une carte pour chanter à la Radio Nationale. Donc je suis venu auditionner dans un des studios, je suis venu à Paris exprès, j'ai auditionné et on attendait de recevoir une carte si j'étais admise à participer aux émissions de la radio française. Et un jour j'ai reçu cette carte et je suis venu auditionner pour les producteurs de radio de l'école, Pierre Cour, Pierre Grimblat, enfin...
Henri Kubnik.
Oui, voilà. Kubnik.
Absolument. Oui. C'était ici, enfin, pas cette maison de la radio, mais c'était la radio nationale de l'époque. Donc, il y a eu la radio, il y a eu évidemment des tas de salles dans lesquelles vous avez chanté, Lynn Renaud. Et puis, évidemment, vous chantiez depuis longtemps déjà du Loulou Gasté, puis vous l'avez rencontré, vous l'avez connu, vous l'avez aimé, et il vous a tout appris après, c'est ça? Et puis surtout, il vous a relooké, et il vous a dit qu'il fallait chanter des choses joyeuses.
Il m'a dit, parce que quand il m'a rencontré pour la première fois, j'auditionnais au Folies Belleville à Paris, je chantais que des chansons dramatiques, et il m'a dit, vous n'êtes pas faite pour ça, vous avez des fossettes, vous avez de beaux yeux bleus, vous êtes blonde, vous êtes bleu, blanc, rouge, m'a-t-il dit, vous êtes faite pour chanter le bonheur.
Et, ouais. on va écouter justement une de ces chansons.
Un joli sourire de France, des fossettes aux joues, des cheveux tout fous, des yeux bleus très doux. Sur son berceau, dès sa naissance, une bonne fée, d'un coup de baguette, avait changé sa destinée. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle from Armentières. Puis vint l'âge d'être écolière, d'apprendre à compter, d'apprendre à parler, que ça l'ennuyait. Mais faire l'école buissonnière, ça s'est amusé. Toujours gaie comme un pinson, elle chantait sa chanson. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle from Armentières. Mais un matin, ce fut la guerre et tous les soldats qui passaient par là se disaient tout bas, la voyant si belle et si fière, à qu'on serait bien blottie dans ses bras douillettement jusqu'au matin.
Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous.
Mademoiselle from Armentières, never been kissed for 20 years. Hinke, pinke, parlez-vous. Quand on raconte cette histoire dans tous les pays, on ajoute aussi qu'elle eut un mari. Les gens qui ont bonne mémoire vont vous raconter qu'elle accepta d'épouser un colonel anglais. Mademoiselle from Armentières, voulez-vous? Mademoiselle from Armentières, voulez-vous? Comme elle lui répondit oui, elle eut un très gentil mari, Mademoiselle from Armentières. Mademoiselle from Armentières, never been kissed for 20 years, hinke pinke, parlez-vous.
Mademoiselle from Armentières, c'est vous, Lynn Renaud, bien évidemment, ça fait toujours plaisir de réentendre tout ça.
Mais oui, ça me fait drôle parce que ça me rappelle des souvenirs. Je me vois en studio, vous savez, à l'époque, on enregistrait, tout le monde était en même temps, l'orchestre, les chœurs. Et donc, j'enregistrais, vous imaginez, on dirait un autre siècle, j'enregistrais sur cire.
Les disques. Oui, non, mais c'était un autre siècle, je crois qu'il faut le dire. Et oui, alors, chanteuse dans des tas d'endroits, meneuse de revue, donc à Las Vegas, mais d'abord à Paris, évidemment, avec comme professeur, pour apprendre à descendre les marches, Joséphine Baker.
Oui.
C'est pas n'importe qui.
Ah non, non, non. Elle était mignonne, Joséphine, tellement serviable. C'est elle qui a eu l'idée. Elle était à Copenhague et elle a entendu dire que je faisais le casino de Paris. Elle a appelé Monsieur Varna, qui était le propriétaire. Et elle a dit, je voudrais parler à la petite. Donc on est venu me chercher. J'étais sur scène et elle m'a dit, tu as peur? J'ai dit, oui, j'ai peur, Joséphine. De l'escalier, oui. Alors je suis de passage à Paris, je vais tous les matins pendant une semaine, je viendrai te donner des petits trucs. Et alors pendant une semaine avec Joséphine, une seule lampe sur le casino, c'était très charplinesque ça déjà. Et puis là, on descendait avec Joséphine qui m'a montré ses petits trucs.
Alors ce qui est incroyable chez vous, Lynn Renaud, c'est votre capacité à rebondir, à toujours aller de l'avant, toujours faire de nouvelles choses, parce qu'il y a eu cette carrière de chanteuse, de meneuse de revue, de productrice aussi, puis comédienne, actrice. À 90 ans, parce que vous les avez fêtés cet été, vous avez encore des projets. L'année dernière, il y a eu La Ch'tite de famille avec Danny Boone. Oui. Là, il y a encore des projets, Lynn Renaud.
Mais il faut avoir des projets toujours.
Tout le temps.
Faut les créer. Non, non, il y a des projets, je commence là dans quelques jours, le 15 octobre, un téléfilm pour Arte, très beau sujet, et puis après j'en ai un autre pour France 3.
Vous n'arrêtez pas, et ça c'est pour notre plus grand bonheur. Alors puisque vous êtes quelqu'un de positif, eh bien on va vous proposer nous aussi nos bonnes ondes du vendredi. C'est une rubrique qui est consacrée uniquement aux bonnes nouvelles et aux initiatives positives.
Ah, ça fait du bien.
Voilà, c'est, alors, bravo, on doit ça bravo. À Sandrine Houdin.
Merci.
Bravo, parce nous que ça manque, les bonnes nouvelles.
Eh ben voilà, absolument. Ah ben nous, on a décidé qu'on avait une rubrique spéciale. Bonsoir, génial. Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, vous nous emmenez manger dans un lieu totalement atypique. Alors ce n'est ni un resto, ni un bistrot. Ce n'est pas de la restauration rapide. On ne va pas chez un particulier. De quoi s'agit-il ?
Alors, ses fondateurs ont appelé ça les petites cantines parce qu'on y mange. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'on va y manger. On ne sait pas avec qui on va manger. Il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas d'addition. Ceux qu'ils souhaitent peuvent préparer le repas, débarrasser ou faire la vaisselle. En fait, on se croirait dans la cuisine d'une coloc géante et c'est exprès. Les petites cantines sont nées pour favoriser la rencontre.
Alors, ça me met en appétit votre affaire. On part avec vous déjeuner dans la toute première petite cantine. Elle a ouvert il y a 2 ans tout juste dans le 9e arrondissement de Lyon, la ville de la gastronomie.
En entrée, il y aura une salade de concombre à faire. On fera aussi... Mesdames, s'il vous plaît, après, vous allez me reposer la question.
Bérénice, oui. Vous êtes la maîtresse de maison, c'est ça?
Oui, ça veut dire que je coordonne un petit peu les opérations ici. A contrario, ça risquerait d'être un petit peu le bazar.
Tu veux qu'on les coupe comment?
On fait des rondelles.
Maîtresse de maison, tout est dit.
Ici, on est un peu comme dans une maison. Par exemple, là-bas, vous voyez le vaisselier, voilà, les verres, les assiettes, point cuisine, genre cuisine ouverte avec des plaques de cuisson, plein de casseroles. Et on a des grandes tables en bois, genre table de salle à manger. Le but, c'est que les gens mangent ensemble, comme chez mamie, quoi. Est-ce que vous pouvez commencer après par les oignons?
L'ail aussi?
L'ail aussi, ouais.
Quels sont vos deux prénoms, mesdames?
Ben, moi, je m'appelle Odile. Et Michel.
Et alors là, vous êtes préposé à quoi, là?
Lasagne aux légumes, on va faire.
Nous, on s'est rencontrés ici.
On serait passé à côté dans le quartier, on ne se serait pas vu, on ne serait pas connu.
Moi, je suis arrivée sur Lyon, je ne connaissais personne.
Et c'est
pas la seule personne que j'ai rencontrée ici.
je suis en train d'éplucher les oignons et je pleure.
On est très vite très seul dans les grandes villes.
Ça, c'est vrai. Moi, j'habite en immeuble. Il y a des fois, je vois même pas ma voisine de 2-3 semaines.
Et vous, madame?
Alors, moi, j'habite le quartier et j'habite à deux rues.
Attention les genoux.
Bah, moi, je suis venue par Sourbiel. Hein.
Oui, c'est moi qui ai fait connaître.
Oui, donc tout le monde, ça va comme ça.
Mais c'est ça, mais c'est comme ça que ça marche. Au niveau de la vie de quartier, mais c'est génial. Dans le quartier, on connaissait pas un lieu comme ça où on cuisine ensemble et on mange ensemble et on rigole ensemble.
C'est un peu comme à la maison, quoi.
Mais c'est comme à la maison. Je pourrais passer ma vie ici.
Vous dites on se marre en plus.
Mais bien sûr qu'on se marre.
Si on se tire la gueule quand on épluche les légumes, on reste chez soi tout seul. Hein. Bon, je suis allée au club du 3e âge, j'ai pris peur, je suis repartie en courant. C'était pas pour moi. Ça peut être aussi, on se donne des conseils, on se donne des tuyaux. Il y a des copines qui sont venues faire les cartons chez toi.
Oui, voilà. Moi, cet hiver, j'avais un chauffage d'appoint qui marchait plus. Ben, c'est Paolo que j'ai connu aux petites cantines qui est venu, qui m'a nettoyé mon chauffage d'appoint.
Ce qui est génial en plus, c'est que je vois, là, il y a même des gamins là, qui s'y mettent.
Oui.
Qu'est-ce que tu fais, toi, Mino?
Là, je coupe les tomates en rondelles.
Et tu aimes ça, faire ça?
Ouais. Je trouve que la cuisine, c'est comme jouer avec des légumes. Comme ça, je veux manger tout ce que j'ai cuisiné. Comme à la maison.
Comme à la maison, mais tout le monde le dit, ça.
Ouais.
Ouais, je fais des courgettes. Un peu d'huile.
Ça sent bon.
C'est sûr que ça sent bon. On va mettre les poivrons, les tomates.
C'est Cyril qui s'en est occupé.
J'ai énormément de mal à m'exprimer avec les personnes que je connais pas. Je connais pas d'autres endroits où on peut discuter aussi facilement.
Vous trouvez aussi que la recette est super bonne?
Aussi.
Tout le monde a besoin de liens sociaux. Les gens, ils crèvent à petit feu les uns à côté des autres. Attends, je vais chercher du gros sel.
Étienne Touvenot, le cofondateur du concept.
Moi, je suis pas sûr qu'il y a 10 ou 20 ans, les petites cantines auraient fonctionné. Il y a de plus en plus de fractures, en fait. Les gens ont envie du lien, mais ils savent pas comment s'y prendre. Ben voilà, les petites cantines, c'est pour ça.
Attends.
Un jour, un jeune arrive avec une grand-mère, donc je pensais que c'était sa grand-mère. Puis il me dit non, c'est une dame que je viens de rencontrer dans la rue. Et la dame lui disait qu'elle avait plus de raison de vivre, qu'elle a quasiment se jeter du pont. Il dit non, ça vaut pas le coup et tout. Venez, on va manger aux petites cantines. C'est juste magnifique.
On peut accueillir aussi des migrants ou des gens dans la différence. Si vous les rencontrez pas ici, vous les rencontrez jamais. Pérénice, on attend la béchamel, on l'a pas. Hein.
Donc en plus, c'est enrichissant.
Ah mais j'adore. On peut avoir tout à fait quelqu'un qui est avocat, côté d'un mec qui est clochard dans le quartier.
C'est ça la force des petites cantines.
Oui, un système qui casse les codes, quoi. Moi, j'avais jamais vu un système comme ça.
On fonctionne à prix libre. On a un prix d'équilibre qui est à 9 euros. Ceux qui ne peuvent pas y mettent moins et ceux qui peuvent plus mettent vraiment plus. À la fin du mois, ça s'équilibre.
C'est vraiment l'idée du siècle pour moi. Vraiment, mais vraiment.
Attraper des entrées, rester groupés. Voilà.
Alors nous, on n'est pas venus cuisiner, mais on va partager, on donnera un coup de main à la vaisselle. Voilà.
Ça vous gêne pas?
Non, au contraire, c'est sympa.
La preuve.
Tu peux avoir les plats sales derrière toi, s'il te plaît, Marie-Paul. Oui.
Allez, moi je rince. Et Cyril essuie. Voilà.
Tout dans la convivialité.
Même la plonge.
Même la plonge.
Merci Sandrine pour ce reportage. Première petite cantine donc à Lyon.
C'est magnifique.
Ben oui, c'est magnifique.
Magnifique. Ça prouve que les gens ont besoin d'être ensemble. La solitude, c'est triste. C'est joli ce qu'il fait pour donner à manger à cette dame âgée.
Alors, il y a une, donc cette première petite cantine à Lyon. Dans 10 jours, il y en aura une à Lille. Hein, puis après, il y aura Nantes, Strasbourg, Annecy, Sandrine, toutes les infos sur lespetitescantines.org.
Exactement.
C'est bien ça. En tout cas, ces initiatives, elles sont formidables.
Magnifique.
Lynn Renaud, on est bien d'accord. Votre livre, Lynn Renaud, à la fin de ce très beau livre sur vos années Las Vegas, vous tenez à saluer le public. Hein. Vous écrivez, vous avez été mon autre, vous êtes mon autre, alors il serait faux de dire que demain, je m'en irai sans famille, car vous êtes la mienne, au-delà du sang et du temps.
Et oui, c'est ce que j'ai dit, je le pense franchement, comme ça, partir un jour.
Parce que cette absence d'enfant, ça reste, et vous l'avez dit souvent, hein, le grand regret de cette vie si bien remplie, mais... Lynn Renaud, nous sommes tous vos enfants.
C'est vrai, hein? j'en ai beaucoup, oui, c'est vrai. Mais quand même, ça m'a manqué jusqu'à très, 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 très longtemps. Peut-être depuis 70 ans, j'ai passé le cap. Il était temps.
Je renvoie donc à ce très beau livre qui est publié aux éditions de La Martinière, vos années Las Vegas avec des photos de vous avec Gregory Peck, Louis Armstrong, Elvis Presley, Nat King Cole, Frank Sinatra. Frank Sinatra que vous avez surpris un jour en train de répéter, vous pensiez que à ce niveau-là on répétait plus, mais si.
Hein, oui, je croyais que Frank Sinatra rentrait sur scène sans trac, mais je suis allée le voir avant justement, et il était en train de répéter tout son tour de chant avec un pianiste seul dans sa loge. Et voilà, il révisait son tour de chant.
Comme quoi. Je renvoie aussi tous ceux qui veulent mieux vous connaître à votre livre « Aimer secrets aussi » qui est paru au Point en 2014 et chez Robert Laffont en 2013. Il y a plein d'anecdotes, encore plus que dans le dernier livre, notamment sur Mistinguette, sur Edith Piaf, qui était un peu jalouse. Mistinguette, elle est un peu kleptomane. Enfin, des tas d'anecdotes. Lynn Renaud, on se quitte comme ça. Et rien que pour le plaisir, un dernier souvenir, un dernier pour la route, 1948 à la Maison des Journalistes.
Voici la charmante et blonde Lynn Renaud, vedette de toutes les grandes émissions de la radio. Elle s'approche du micro et va vous chanter deux des plus belles œuvres de Louis Gasté.
Je vais d'abord vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui n'était pas sentimental du tout. Il n'était pas sentimental du tout. Il ne disait jamais de mots très doux. Et quant aux petits baisers dans le cou, il m'en faisait, mais pas beaucoup. Il n'était pas sentimental du tout.
Ça, c'est mon premier disque avant La Cabane au Canada. Je devais avoir 17 ans, là.
Eh ben voilà, c'est formidable. Merci mille fois, Aline Renaud, d'être restée avec nous.
Merci à vous.
On vous embrasse.
Et moi, je vous embrasse aussi.
Eh ben voilà, tout le monde est heureux. C'est la pub.